Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Depuis que Jésus est monté à la droite de son Père, jeudi dernier, les apôtres et les saintes femmes sont au Cénacle, encore et toujours le Cénacle, celui où la première messe a été célébrée, celui où les premiers prêtres de l'histoire ont été ordonnés, celui où Jésus, à demi-voix, a confié à ses apôtres, et sans doute aux saintes femmes qui devaient être là également, les derniers secrets de son cœur, combien il les avait aimés, le fait qu'il voulait leur laver les pieds, que le service était ce qui devait prévaloir dans l'Église. Bref, les voilà toujours dans ce même lieu, sauf que cette fois-ci, ils ont la joie au cœur. Le Seigneur les a quittés pour la deuxième fois, mais les récits évangéliques attestent qu'après la montée du Seigneur au ciel, le jour de l'Ascension, tout ce monde-là était dans la joie. Joie néanmoins matinée d'une certaine situation un peu inconfortable. Inconfortable parce qu'il leur faut se remettre tout d'abord de cette montée de Jésus au ciel, fulgurante et subite, qui est amortie par le récit évangélique, qui est comme filtré par le récit évangélique qu'on nous lit chaque année, si bien que nous avons en quelque sorte l'impression que tout cela était très naturel. Mettons-nous dans la peau des apôtres et des saintes femmes, voir Jésus monter tel une fusée dans les cieux, sur une nuée, et des anges venir chanter sa gloire en même temps que demander de se lancer dans l'apostolat, c'est quand même un peu fort de café. Alors on peut comprendre qu'ils aient mis du temps à s'en remettre. Mais surtout, ils sont dans une situation un peu inconfortable parce qu'il leur faut encore digérer les énigmatiques promesses de Jésus. Surtout, songer à la redoutable mission qu'il vient de leur confier. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quiconque sera baptisé et croira sera sauvé, quiconque ne croira pas sera condamné. Ils ont conscience d'avoir une mission incroyable entre les mains et néanmoins, les voilà, 11 hommes, peut-être 10 femmes au maximum, et toute l'humanité, rien moins que cela, à amener au Christ et à baptiser. Une paille. Voyez donc un peu le caractère inconfortable de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et, je me permets une petite parenthèse, 11 hommes et une dizaine de femmes pour évangéliser toute l'humanité, et nous qui avons le culot de nous plaindre de temps en temps parce que la tâche nous paraît immense, après 2000 ans pourtant d'évangélisation, qui a porté aux quatre coins du globe la bonne nouvelle du salut, et une église qui compte quelques centaines de millions, sinon quelques milliards de fidèles. Je crois deviner que là-haut, les 11 et les saintes femmes, 2000 ans plus tard, sourient quelque peu devant ce caractère timoré des chrétiens d'aujourd'hui. Bref, je ferme la parenthèse, mais il est bon, je crois, de remettre chaque chose à sa place quand même. Les apôtres, donc, doivent se concerter, j'imagine, dans le Cénacle, le Seigneur parti, et essayer de faire quelques plans d'attaque pour réussir à mener à bien cette mission. Alors je vois, je me permets quand même de regarder par le trou de la serrure et d'imaginer comment tout cela se passe, je ne manque pas de respect là. Il est loisible d'imaginer comment les scènes se passaient. Saint Ignace de Loyola invite par exemple à appliquer son imagination à travers les lignes de l'évangile pour se mettre dans la situation. Alors je m'y mets et vous avec moi j'espère, nous voilà à la porte et nous regardons par la serrure parce que tout de même ce cénacle est un peu impressionnant, il vaut mieux rester dehors et regarder pour ne pas troubler ces gens-là. Que se passe-t-il ? J'imagine les apôtres, tels des bons hommes, faire toutes sortes de projets en vue de l'efficacité apostolique qu'on leur a demandé d'assurer, un peu à la manière dont des commerciaux sont en train de se diviser le territoire pour effectuer leur travail. J'imagine la Madeleine, évidemment, cette chère Marie-Madeleine qui, plus enflammée que d'habitude, veut aller parler de son Jésus à tout le monde, peut-être d'une manière un petit peu imprudente. J'imagine le reste des femmes laissant galoper leur imaginaire, à la fois saisi par ce mur de la société juive et de la société païenne devant lesquelles elle se trouve, peut-être en bonne femme un peu impressionnée par tout cela, et en même temps avec la rage au cœur, la rage toute féminine de porter la vérité à leurs frères, et puis, évidemment, pour présider à tout ce beau monde, la Vierge Marie. La Vierge Marie, fidèle à elle-même, peut-être plus princière que jamais, dans la joie, parce que tout est accompli vraiment. Son Fils est retourné de là où il est descendu le jour de l'Annonciation, et c'est sûr, son règne est déjà instauré. La Vierge Marie, que les apôtres et les saintes femmes tenaient en grande vénération, évidemment, et qu'ils devaient consulter, j'imagine, avant que Pierre ne tranchât, usant du pouvoir pontifical fraîchement échu. Alors cueillons de la bouche de la Vierge Marie quelques conseils, parce que Marie est celle qui a le mieux reçu les paroles de son Fils et qui était la plus à même d'expliquer en quoi devait consister la mission de témoignage confiée aux apôtres, aux saintes femmes et par-delà les siècles, mes frères, à chacun d'entre nous. Il y a des choses très simples. Je pense que Marie a rappelé à ses apôtres le vrai sens des paroles de Jésus que nous avons lues dans l'évangile d'aujourd'hui, qu'il avait prononcé au Cénacle, mais avant sa passion. Que dit-il ? Vous rendrez témoignage. Toutes choses qui font picoter les imaginations et les cœurs des apôtres et les nôtres, vous rendrez témoignage, c'est impressionnant. Et la Vierge Marie de leur dire, mais regardez ce qu'a ajouté mon Fils. L'Esprit de vérité que je vous enverrai d'auprès de mon Père rendra témoignage. C'est-à-dire que nous avons, avec le Saint-Esprit, la même mission de témoignage. Ou, pour dire plus vrai, nous ne pourrions témoigner si le Saint-Esprit venait en nous pour s'acquitter de cette tâche. Mes frères, en permanence, je sais que vous le savez, mais je me permets de vous le rappeler, alors que nous allons recevoir en plénitude ce Saint-Esprit et ses dons dans une semaine à la Pentecôte, il ne faut pas redouter notre mission, car en réalité, elle est celle du Saint-Esprit qui inscrit le Seigneur Jésus en nous, qui fait vivre Jésus en nous. Nous avons donc toute disposition nécessaire pour aller porter ce témoignage. Ce témoignage, est-il encore ajouté dans l'évangile d'aujourd'hui, nous pourrons le rendre, ou les apôtres pourront le rendre, dit Jésus, parce que vous êtes avec vous, avec moi, depuis le commencement. Il est évident qu'il s'agit là d'un privilège apostolique. Nous n'étions pas avec Jésus depuis le commencement. Mais parce que nous bénéficions de la révélation qui nous est transmise par la tradition, nous avons le témoignage tout frais, si j'ose dire, perpétuellement frais, nouveau, des apôtres à notre disposition. Donc, d'une certaine manière, même si nous sommes nés 2000 ans après ces événements, même si nous n'avons pas connu en chair et en os le Seigneur Jésus, nous sommes nous aussi de ces apôtres. Nous n'avons pas à trembler. Ce témoignage est le nôtre, cette source à laquelle on puise, qui nous permet d'écouter les paroles de Jésus, de le contempler, qui nous permet de le toucher quasiment. C'est ce témoignage rendu par les apôtres est greffé en nous, si j'ose dire, et nous permet d'avoir la même légitimité à témoigner autour de nous. Il y a encore autre chose, mais ce n'est pas dans l'évangile que je vais le chercher, c'est dans l'épître. Voyez la deuxième épître de Pierre que nous venons de lire auparavant. On nous dit, mettez-vous au service les uns des autres que, avec le don que chacun de vous a reçu. Il est, mes frères, une grande vérité profondément catholique. Catholique veut dire, comme vous le savez, universel. L'Église jouit d'une riche diversité de charismes, de ministères, de dons qui nous sont échus. Chacun d'entre nous a reçu un don absolument unique. Et s'il ne fait pas fructifier ce don, il manquera quelque chose à la perfection de l'Église, il manquera quelque chose au témoignage rendu à Jésus-Christ. Chacun d'entre nous a un tempérament particulier, des défauts, mais surtout des qualités particulières. Chacun d'entre nous a une manière de s'entretenir avec Dieu, de témoigner toute particulière. Chacun d'entre nous a une certaine efficacité particulière. De grâce, mes frères, je vous demande pendant cette semaine, en attendant que le Saint-Esprit en plénitude vienne ragaillardir tout ça, renouveler ce qui vieillit un peu en nous, je vous demande vraiment de vous interroger sur ce don qui vous est échu. Quelle est la qualité particulière que le Seigneur Jésus a voulu me communiquer ? Si je ne rends pas ce témoignage-là, selon le don qui m'est donné, alors, encore une fois, je le répète parce que cela est grave, il manquera quelque chose au reflet du visage de Jésus-Christ à la face des nations. Si aujourd'hui nos contemporains peinent à rejoindre l'Église, c'est sans aucun doute parce que leur cœur est fermé, mais c'est sans aucun doute pour une autre part, parce que nous ne prenons pas au sérieux le don qui nous est échu. Le témoignage n'est pas le privilège des seuls consacrés. Le témoignage n'est pas le seul fait des évêques unis au pape. Le témoignage est nécessaire, c'est un devoir grave pour chacun d'entre nous, selon la ligne que le Saint-Esprit a gravée en nous le jour de, non pas de notre baptême, mais même déjà de notre conception. Nous ne pouvons pas nous défausser de cette mission, il est trop facile de le faire. Le pape émérite Benoît XVI disait « Nul n'est de trop dans l'Église ». C'est magnifique. Il parlait singulièrement des traditionalistes, mais on pourrait appliquer cela à toute personne. De grâce, là encore, cessons ces divisions complètement stériles et contre-productives. Dans l'Église, le Saint-Esprit a ses secrets, il existe différentes demeures, chacune de ces demeures est indispensable. Alors, voyez qu'il nous reste du pain sur la planche, en attendant cette plénitude du Saint-Esprit, voilà, interrogez-vous sur le talent qui est le vôtre, et cessez de jalouser celui des autres. Cessez de regarder les autres demeures dans l'Église de grâce, on s'en moque, cela ne regarde que le Saint-Esprit et ce qu'il a voulu produire dans son Église aujourd'hui. La deuxième chose, rassurez-vous, mon sermon se terminera là, la deuxième chose que sans aucun doute la Vierge Marie a rappelé aux apôtres, c'est qu'il ne suffit pas de témoigner, de parler, d'agir. Il faut encore, pour témoigner, il faut encore savoir garder le silence, très souvent. Pas seulement pour entendre la voix du Saint-Esprit qui nous parle et être docile à ses vues, mais encore dans l'évangélisation elle-même. Très souvent, nous sommes une bouche un peu timorée, un peu fermée, ou une bouche un petit peu qui a un rictus de colère si la personne en face résiste, mais il faut bien le reconnaître, nous avons du mal à nous taire et à écouter ce que l'autre voudrait bien nous dire. Ses objections, ses doutes, ses difficultés, ses souffrances, toutes choses qui doivent être écoutées, prises en compte pour que l'apostolat dans un deuxième temps soit adéquat, que nous sachions trouver la réponse qui va bien, que l'Évangile vienne penser les plaies qu'il a. Je crois qu'il s'agit d'une leçon de Notre-Dame, évidemment, qui est la grande taiseuse, si j'ose dire, celle qui se tait plus qu'elle ne parle, Notre-Dame du Cénacle, qui est Notre-Dame du silence, en quelque sorte. Vous voyez que, là encore, cette dimension fait partie du témoignage. Donc, deux choses cette semaine, trouver le talent qui est le vôtre, et demander au Saint-Esprit, de dimanche prochain, de vous ragaillardir dans cette ligne, sans regarder autour de vous. Deuxième chose, demander à Notre-Dame du Cénacle, la grâce du silence, la grâce de savoir écouter. Stabat Mater. Marie se tait, et c'est de cette manière qu'elle console son fils. Marie se tait, et c'est de cette manière qu'elle nous édifie devant le calvaire, devant son fils qui est en train de nous sauver. Voyez, que de choses à faire cette semaine. Rassurez-vous, au bout du chemin, l'effusion du Saint-Esprit pour chacun d'entre nous. Tout va bien, nous sommes encore en route vers le ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.